Vous êtes bien sur Radio Orient, votre magazine d'information, Nawel El Amouchi. La France suffoque et fait face à une chaleur extrême et qui dure. 16 départements sont en vigilance rouge aujourd'hui et jusqu'à demain minuit. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné en Algérie à 5 ans de prison ferme en appel, notamment pour atteinte à l'unité nationale. Le Premier ministre François Bayrou a dit espérer des mesures de grâce présidentielles. À Gaza, au moins 17 personnes ont été tuées depuis le début de la journée par l'armée israélienne, selon la défense civile. Et en Cisjordanie occupée, 2 personnes ont été tuées, selon le ministre palestinien de la Santé. Et ceci malgré des appels renouvelés à un cessez-le-feu. Tout d'abord, dans notre point actualité, Paris et sa banlieue étouffent comme une grande partie de la France pour cette journée de mardi, au pic d'une canicule précoce et exceptionnelle par sa durée. Cet après-midi, le soleil reste brûlant et le mercure atteignait après 15h 38 degrés dans la capitale selon Météo France. À l'échelle nationale, environ 1900 établissements scolaires étaient fermés aujourd'hui à la mi-journée à cause de la canicule, selon le ministère de l'Éducation. Dans l'actualité au Proche-Orient, à Gaza, au moins 17 personnes ont été tuées depuis le début de la journée par l'armée israélienne, selon la défense civile. Certains sont morts alors qu'ils attendaient pour recevoir de l'aide humanitaire. Et en Cisjordanie, occupée, 2 personnes ont été tuées par l'armée israélienne, selon le ministère palestinien de la Santé. Donald Trump a affirmé aujourd'hui que les États-Unis faisaient pression pour qu'une trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza soit conclue dans le courant de la semaine prochaine. Et plusieurs ONG, dont la Ligue des droits de l'homme, ont annoncé avoir déposé plainte à Paris contre 2 soldats franco-israéliens qu'elles accusent d'exécution sommaire de civils dans la bande de Gaza. Une plainte qui repose sur le travail d'investigation du journaliste palestinien indépendant Younis Tiraoui. Les 2 Français détenus en Iran depuis 3 ans, Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris, dont on était sans nouvelles depuis la récente frappe israélienne sur leur prison, ont reçu aujourd'hui la visite d'un diplomate français, selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. En Turquie, le président du pays, Recep Tayyip Erdogan, a qualifié de provocation infâme la publication par une revue satirique d'opposition d'un dessin accusé de représenter le prophète Mohammed. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans le pays suite à cette publication. Des mandats d'arrêt ont été délivrés visant des membres de cette revue. Et enfin, dans l'actualité en France, après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté le délit d'homicide routier permettant de poursuivre les responsables d'accidents mortels avec circonstances aggravantes. Une mesure saluée par les familles des victimes. C'est la fin de votre point actualité. Place à présent aux principaux dossiers de votre magazine d'information. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place autour d'horizon de l'actualité. En France, tout d'abord, le pays fait face à une chaleur extrême et qui dure. 68 départements sont en vigilance orange, 16 sont en vigilance rouge. Parmi eux, tous les départements d'Île-de-France, mais aussi ceux de la région Centre, sauf l'Eure-et-Loire, ainsi que l'Aube, Lyon et la Vienne. Le Premier ministre François Bayrou a assuré que la vigilance rouge ne concerne pas que les personnes fragiles, mais tout le monde, on l'écoute.
La chose la plus importante, c'est que la situation de vigilance rouge, elle ne concerne pas que les publics ou les personnes les plus fragiles. Elle concerne tout le monde. Tout le monde doit participer aux précautions, à l'attention, à la surveillance et partager les difficultés qui se rencontrent ces sujets ou sur ces personnes, notamment en exigeant ou en veillant à ce que les personnes dont on est proche et fragile s'hydratent, boivent régulièrement, restent au frais au moins 2 ou 3 heures par jour et ne sortent pas aux heures les plus chaudes, y compris même pour ceux qui sont totalement dédiés, y compris des activités sportives.
C'était le Premier ministre François Bayrou et le médecin urgentiste Patrick Peloux, président de l'Association des médecins urgentistes, souligne lui l'impact des inégalités sociales face à la canicule.
Plus vous avez de gens qui sont avec des moyens pauvres, avec des habitats qui sont ce qu'on appelle des bouilloires thermiques, hein, c'est-à-dire que vraiment ils n'arrivent pas à garder le frais, plus vous avez ça, et plus vous avez de morts. Plus vous avez la solitude, plus vous avez de morts. Les premières victimes sont toujours les sans-domicile fixe. Hein, c'est toujours, toujours comme ça. Ça a toujours été, c'est toujours comme ça.
Qui meurent d'ailleurs plus à cause de leurs conditions l'été que l'hiver.
Exactement. C'est-à-dire que la surmortalité des SDS, c'est surtout l'été. Bon, vous avez les habitats, hein, notamment là, si vous voulez, par exemple sur Paris, les gens qui vivent sous les toits et sous le zinc, bon, c'est des fournaises. Hein. C'est des fournaises. Donc voilà, donc il y a tout ça. Toute la politique qui avait été lancée après la COP21 pour justement changer les habitats et puis les protéger et de la chaleur, tout ça, ça a été abandonné, hein, progressivement. Puis vous voyez bien avec la politique sur l'environnement, toutes les lois qui sont détricotées, c'est n'importe quoi. Ce qui fait que, si vous voulez, il y a une globalité par rapport à la canicule. Il ne faut pas la prendre juste comme un phénomène estival. C'est juste le réchauffement de la planète qui est très inquiétant.
C'était Patrick Peloux, président de l'Association des médecins urgentistes, au micro de François-Xavier de Calonne. Et c'est bien tout le sud du continent européen qui subit cette canicule. L'Espagne, le Portugal et l'Italie font aussi face à des températures extrêmes. On fait le point avec vous, Arthur-Claude Savoie.
Et oui, il n'y a pas que la France qui suffoque, le sud de l'Europe aussi. En Espagne, la température a dépassé les 46 degrés Celsius samedi dernier, un record absolu pour un mois de juin. La région andalouse reste la plus touchée, notamment Séville, Cordoue ou encore Badajoz, où les températures dépassent toujours les 40 degrés. Des chaleurs qui, selon les prévisions, se calmeront cette semaine, mais le pays reste en alerte dans plusieurs provinces. Selon l'agence météorologique espagnole AEMET, des canicules précoces pourraient devenir de plus en plus fréquentes avec le dérèglement climatique. Au Portugal, après 2 jours de vigilance rouge, le niveau d'alerte a été abaissé à l'orange, notamment à Lisbonne. Mais dans le centre et dans le sud du pays, des villes comme Castelo Branco, Beja ou Évora restent confrontées à des pointes à 40 degrés Celsius. Les autorités sanitaires recommandent de limiter toute activité extérieure entre 11h et 18h et des plans de prévention ont été réactivés dans les zones les plus rurales. En Italie, ce sont les intempéries post-canicule qui cette fois-ci inquiète. Dans le nord-ouest du pays, une brusque montée des eaux causée par des orages violents a fait un mort lundi. Un contraste brutal entre la chaleur étouffante des jours précédents et une instabilité climatique marquée. Le pays redoute désormais de nouveaux épisodes extrêmes de chaleur dans les semaines prochaines. Cette séquence caniculaire, la 50e depuis 1947, s'inscrit dans une tendance de fond. Selon le GIEC, chaque degré de réchauffement global augmente de 7% l'intensité des précipitations extrêmes. Les canicules ne sont plus des exceptions, mais bien des signaux d'alerte pour l'avenir du climat européen.
Et dans l'actualité, au Proche-Orient, selon des organisations de défense des droits humains, les autorités iraniennes ont arrêté des centaines de personnes et exécuté des dizaines d'autres. Une nouvelle vague de répression qui fait suite à la guerre de 12 jours avec Israël. Ces ONG accusent l'Iran de propager la peur pour masquer ses faiblesses dans ce conflit. Les précisions avec vous, Loïc Barrière.
6 hommes pendus pour espionnage au profit d'Israël, des dizaines d'autres exécutés pour d'autres chefs d'accusation et plus de 1000 personnes arrêtées en Iran pour des faits liés à la guerre. Un bilan donné par Iran Human Rights, basé en Norvège, d'après Roya Bouromand, directrice exécutive d'une autre ONG qui a son siège aux États-Unis. Les autorités iraniennes exercent une répression pour faire face à la colère des Iraniens qui reprochent au régime son incapacité à contrôler l'espace aérien et à protéger les civils durant la guerre avec Israël. 4 jours après le début du conflit, le chef du pouvoir judiciaire iranien avait demandé des procès rapides pour les personnes accusées d'espionnage au profit d'Israël. Selon plusieurs ONG, certaines personnes ont été arrêtées dans la rue ou à leur domicile, tandis que des exécutions ont été précipitées et des prisonniers transférés vers des lieux inconnus. Parmi les personnes ciblées, des membres des minorités kurdes, juives et baïs. Les militants des droits de l'homme en Iran gardent en mémoire la vague de répression massive qui avait suivi le cessez-le-feu entre l'Iran et l'Irak en 1988, une répression qui s'était soldée par l'exécution de milliers de dissidents.
Et c'est une nouvelle étape entre les États-Unis et la Syrie depuis la chute de Bachar el-Assad. Donald Trump a signé un décret qui formalise le démantèlement des sanctions américaines contre Damas. Le point avec vous, François-Xavier de Calonne.
Oui, le porte-parole de la Maison-Blanche parle d'un effort pour promouvoir et soutenir le chemin du pays vers la stabilité et la paix. Le décret présidentiel évoque les mesures positives prises par les autorités syriennes depuis la chute de Bachar el-Assad. Le chef de la diplomatie syrienne salue sur X un tournant important qui favorise l'entrée de la Syrie dans une nouvelle phase de prospérité, de stabilité et d'ouverture sur la communauté internationale. Avec la levée de ce grand obstacle à la reprise économique, s'ouvrent les portes tant attendue de la reconstruction et du développement, ainsi que de la réhabilitation des infrastructures vitales, créant ainsi les conditions nécessaires pour un retour digne et sûr des déplacés syriens dans leur patrie. Ce sont ces mots. La Syrie, dirigée par le clan Assad pendant des décennies, fait l'objet de sanctions internationales depuis 1979. Des sanctions renforcées après la répression par le pouvoir de Bachar el-Assad de manifestations pro-démocratie en 2011, l'élément déclencheur de la guerre. Donald Trump avait créé la surprise en annonçant lors d'une visite à Riyad le 13 mai dernier la levée des sanctions américaines. Il avait alors dit vouloir donner une chance de grandeur aux nouvelles autorités de Damas, les États-Unis qui maintiennent les sanctions visant Bachar el-Assad, qui a fui en Russie, mais aussi vis-à-vis de ses associés, des auteurs de violations des droits de l'homme, des trafiquants de drogue et des personnes liées à l'État islamique.
En Algérie maintenant, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné à 5 ans de prison ferme en appel, notamment pour atteinte à l'unité nationale. Pour rappel, il avait été condamné le 27 mars dernier à 5 ans de réclusion par le tribunal de Dar el Beida près d'Alger, notamment pour des déclarations en octobre 2024 aux médias français d'extrême droite Frontières. Il estimait que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc. Concernant cette condamnation, le Premier ministre François Bayrou a dit espérer des mesures de grâce présidentielles. On l'écoute.
Maintenant qu'il y a eu condamnation, on peut imaginer que des mesures de grâce, notamment en fonction de la santé de notre compatriote, soient prises. Et je sais, je ne doute pas, et je sais que toutes les instances exécutives, depuis le président de la République jusqu'au gouvernement, agissent en ce sens, de manière que l'humanité triomphe dans une affaire qui est, pour les Français, insupportable.
C'était François Bayrou, Premier ministre. Autre affaire en Algérie, la France a déploré la lourde condamnation d'un journaliste français en Algérie, Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison, notamment pour apologie du terrorisme. L'ONG Reporters sans frontières a appelé à sa libération. À notre micro, Anne Bocandé, directrice éditoriale de Reporters sans frontières.
Christophe Glaise est un journaliste français, un journaliste sportif qui travaille depuis plus de 15 ans sur le sport, sur le football notamment, et donc qui travaille par exemple pour le groupe SoPresse, donc pour SoFoot et Society. Et donc lui, ce qui l'intéresse en effet, c'est le football, et c'est pour ça qu'il s'est rendu en Algérie, c'est pour enquêter, en tout cas faire un reportage sur les heures de gloire de la jeunesse sportive de Kabylie, donc qui est un club de football, et puis aussi pour assister aux commémorations de la mort du footballeur camerounais Albert Ebossé. Donc on est vraiment sur des sujets purement sportifs. C'est pour cette raison qu'il était en Algérie depuis au mois de mai l'année dernière, et il a été arrêté. Donc on lui reproche comme charge apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Donc ce qui lui est reproché in fine, c'est d'être entré en contact avec le MAC, donc le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, groupe pour lequel Christophe Glaize était rentré en contact avant que le groupe soit déclaré comme organisation terroriste par l'Algérie, et là qu'il a contacté dans le cadre de son travail journalistique purement et simplement.
Parce que ce groupe a des liens avec la jeunesse sportive de Kabylie.
C'est cela, et c'est la raison pour laquelle, donc, comme tout journaliste, il a fait son travail de journaliste et est rentré en contact pour pouvoir préparer ce reportage sur ce club de football dans le cadre de son activité journalistique purement et simplement, dans le cadre d'un travail intègre en ce sens. Et donc le dossier concernant Christophe Glaize et les charges qui lui sont du coup opposées sont complètement infondées. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on appelle à une mobilisation forte pour appeler à sa libération.
C'était Anne Bocandé, directrice éditoriale de Reporters sans frontières, au micro de François-Xavier de Calonne. Et on finit ce tour d'horizon de l'actualité par un peu de culture. Anis Kellou, chargée de mission culturelle pour l'association Coup de Soleil, dresse pour nous le bilan de l'édition 2025 du Maghreb des Livres. Il nous explique pourquoi ce rendez-vous est incontournable.
Les deux jours se sont très bien passés. On était très contents, on a reçu beaucoup de monde. La fréquentation était très intéressante malgré la chaleur et la canicule. On avait un petit peu peur, pour vous dire, du manque de visiteurs. Mais non, vraiment, il y avait beaucoup de monde et on était très, très contents. D'autre part, nous avons quand même, pour cette édition, reçu plus de 130 auteurs venus de France, des pays du Maghreb, mais aussi du Proche-Orient, de la Palestine, du Liban, de Syrie et une autrice aussi d'Égypte. Donc nous sommes très très heureux. Voilà. Alors pour dire, c'est que le Maghreb des Livres, c'est vraiment un lieu de rencontre, mais au sens large du terme. Il n'y a pas que des livres, il y a vraiment des rencontres humaines en premier lieu. Vous savez aussi qu'il y a même des expositions de peinture, de photos. Il y a aussi des calligraphes, des BDistes sur place. C'est vraiment la culture en général. Et surtout, c'est un moment convivial, fraternel pour tout le monde. Pas que les gens, pas que les gens originaires du Maghreb, mais vraiment pour tout le monde. Tous ceux qui veulent assister à de très belles conférences, découvrir de nouvelles cultures et surtout construire tous ensemble une belle société française sous la devise de la République, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Parce qu'encore une fois, le Maghreb des Livres, c'est un lieu de fraternité et qui célèbre, c'est vrai, les lettres venues du Maghreb, mais aussi de toute la Méditerranée.
C'était Anis Kellou, chargée de mission culturelle pour l'association Coup de Soleil, au micro de Salma Darlaoui. Merci beaucoup d'avoir suivi notre tour d'horizon de l'actualité. Très bonne suite des programmes sur Radio Orient.